my talk to you is about
ma présentation va porter sur l'épidémiologie. Enfin, c'est ce qu'on voit à l'ordre du jour. Alors, je vais parler d'épidémiologie, effectivement, et des études qui peuvent être menées. Mais j'aimerais aussi diviser ma présentation et vous parler dans une deuxième partie de ce qui peut être réellement fait. J'ai été invité à de nombreuses réunions de ce type au cours des 20 dernières années. Et nous finissons toujours par nous mettre d'accord pour dire que la situation est terrible, que tout le monde est en train d'être empoisonné, mais cela ne semble pas mener à des changements. L'industrie nucléaire continue d'exister et il semblerait que personne ne puisse l'arrêter. Alors j'ai un peu changé mon approche et plutôt que d'essayer de déterminer une stratégie pour arrêter l'industrie nucléaire, j'ai mis au point quelque chose d'autre que je vais vous présenter aujourd'hui. Et j'aimerais que vous m'aidiez dans cette entreprise. Et j'aimerais aussi mobiliser les chefs d'ONG. Je suis sûre qu'ici, il y a de nombreux représentants d'ONG européennes. Et j'aimerais que vous m'aidiez à faire tomber de son piédestal l'industrie nucléaire. Et nous pouvons le faire. Alors, non, ce n'est pas la bonne présentation qui est à l'écran. C'est une présentation intitulée Geneva, Epic Geneva. On dirait que quelqu'un a supprimé ma présentation de l'ordinateur. Ah, la voici. Ce sont des petits problèmes techniques qui surviennent régulièrement. Alors, il existe des règles internationales, des arrangements internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et en Europe, il existe une déclaration des droits de l'homme et il y est question des droits de l'homme et de l'environnement. Alors, il s'avère qu'en Europe, le contrôle de l'exposition à la radiation est défini par les normes de base des directives Euratom mises au point en 1996. Et à l'époque, je m'étais penchée sur cette directive avec d'autres chercheurs, d'autres scientifiques pour le compte des Verts du Parlement européen. Et nous avons conseillé aux Verts européens d'arrêter cette directive et de l'empêcher d'être intégrée au droit européen. En fin de compte, ils n'ont pas pu le faire, mais ils ont réussi quand même à placer une petite bombe dans cette directive. C'est une clause dans un article qui précise que si toute nouvelle information scientifique est publiée après l'intégration de la directive au droit, il faudrait justifier de nouveau toutes les pratiques nucléaires. Donc tout devrait être réévalué sur la base de cette clause. C'est quelque chose de terriblement important parce que l'année 1996, c'est il y a longtemps, et entre cette année-là et aujourd'hui, des centaines de publications scientifiques ont été diffusées qui démontrent que la directive est fausse, que les normes de sécurité de cette directive sont inappropriées. Et ce sont des publications qui sont ignorées par l'AIEA, par le CIPR. On ne parle pas de Tchernobyl. Les données de Tchernobyl sont tout à fait ignorées. Mais dans le cadre de ces normes Euratom de sécurité de base, on ne peut pas ignorer ces informations grâce à cette clause dont j'ai parlé. Alors, ceci a deux conséquences. Alors, vu que je suis lancée sur ce sujet, sujet, je continue là-dessus, puis je reviendrai
sur autre chose plus tard.
Chaque citoyen européen a le droit de faire une pétition auprès du Parlement européen. Il y a un comité des pétitions qui décide du bien fondé d'une pétition. Et donc, les personnes peuvent demander des choses tout à fait triviales. Alors, un citoyen peut demander que le Parlement européen ou que la Commission européenne donne assistance à mon chat qui est gravement malade. Mais en fait, si suffisamment de personnes envoient une pétition au même moment au Parlement européen, le Parlement doit réagir, doit faire quelque chose, car c'est inscrit dans la législation européenne. Alors c'est quelque chose que nous pouvons utiliser. Je voudrais que chaque personne ici présente et que chaque ONG ici présente, que vos oncles, vos tantes, vos voisins, tout le monde, soit en contact avec mon collègue Damar, ici debout au premier rang, et nous voulons simultanément produire un tsunami auprès du comité des pétitions du Parlement européen. Des milliers de pétitions pourraient dire la même chose, à savoir qu'il faut justifier de nouveau la législation européenne en matière de radioprotection. Et ceci serait une catastrophe pour l'industrie nucléaire. La deuxième chose que vous pourriez faire, c'est écrire cette même pétition aux agences de protection radiologique de vos pays respectifs. Donc, en France, au Royaume-Uni, en Suède, partout, et vous demandez, sur la base de la directive Euratom, vous demandez une réévaluation de leur modèle d'évaluation du risque, parce que des informations nouvelles sont apparues depuis 1996 concernant Tchernobyl. Alors, ces instances vont dire non, bien sûr, mais nous voulons que ces instances disent non, en réalité. Parce qu'à ce moment-là, nous pourrons les contourner et aller à la Cour des droits de l'homme européenne. Et là, nous aurons affaire à des juges et à des philosophes, et non pas à des physiciens. Et lorsqu'on a affaire à des philosophes et des juges, on aura toujours gain de cause, parce que notre cause est juste, parce que notre logique est imparable. Bien compris ? Très bien. Alors maintenant, je passe à ma présentation à proprement parler. Il vous reste 5 minutes. Eh bien, c'est parfait. En fait, je vais parler à toute allure. Intervention hors micro. Ce sont des données dont il s'agit. On pourra réexaminer les données par la suite, après ce colloque avec des philosophes et des juristes.
Ok, good.
Intervention au micro. 12 minutes, on me dit. Alors, 12 minutes, c'est gérable. Alors, vous pouvez me laisser l'ordinateur et je vais me débrouiller tout seul. Non, c'est 5 minutes, dit le modérateur.
Oh, come on. Just go ahead.
Mais je peux faire comme le professeur Yablokov et m'interrompre. J'ai dit les choses principales, et si vous voulez en savoir plus sur l'épidémiologie, vous pouvez lire des manuels, et puis vous pourrez lire aussi ma présentation qui sera sur le site web. Alors, pourquoi l'épidémiologie ? Il nous faut pratiquer l'épidémiologie parce que registres de cancer ne nous sont pas accessibles. Tout est secret. En 1991, les registres oncologiques européens ont dit qu'ils ne donneraient aucune donnée locale pour les petites localités. Et donc, nous sommes à bord d'un vaisseau spatial, nous traversons l'univers sans aucune information. Nous ne savons pas qui tombe malade quand. Parce que Toutes ces données, notamment les cancers causés par la radioactivité, sont cachées. Alors, nous pouvons faire nos propres études épidémiologiques, et c'est là mon point principal. En 1991, une grande guerre a eu lieu en Irak et de nombreuses armes à l'uranium ont été utilisées. Les personnes ont commencé à être atteintes de cancer, ont commencé à mourir, sont des enfants laissés avec des malformations congénitales. Mais ce n'est pas avant 2010 qu'on a mené des études épidémiologiques parce que les autorités ne le permettaient pas. Personne n'était disposé à le faire. Alors, le fin mot de l'histoire ici, parce que je ne veux pas mettre en colère le président, c'est que il est possible de faire ces études. On nous dit souvent, mais on ne peut pas faire ça, on n'est pas épidémiologue. Mais en fait, toute personne peut le faire. Il s'agit de faire du porte-à-porte et de poser des questions. Et en fait, une des premières études épidémiologiques a été réalisée par Jon Snow de cette manière-là. Il a sillonné Londres, a frappé au porte, a demandé combien de personnes avaient le choléra dans chaque ménage et s'est rendu compte que la cause, le vecteur du choléra était l'eau. Il n'était pas épidémiologue. Mais son travail n'a pas été reconnu. Il est mort assez jeune. Mais en fait, on se rend compte maintenant qu'il était un des avant-coureurs, un des éclaireurs de l'épidémiologie. Il y a divers types d'études citoyennes. Je vais vous donner quelques exemples. Nous sommes penchés sur la mortalité due au cancer du sein à Essex. Et on voit que les taux élevés de cancer du sein se trouvent près de la centrale nucléaire et près des rejets de cette centrale. Voici une autre étude que j'ai faite en Irlande. Il s'agissait de la contamination de la côte au niveau de Carlingford. C'est donc sur la mer d'Irlande. C'est une zone qui est contaminée par Sellafield. Ce sont des coups contaminés. Vous voyez en rouge les cas de cancer, les taux de contamination qui sont en adéquation avec les zones contaminées. On voit que il y a une amélioration plus on s'éloigne des zones contaminées. C'est surtout une contamination en plutonium dans l'atmosphère qui est inhalée. Et cette étude-là a été réalisée en porte-à-porte, en posant des questions, des questionnaires de cette question environ. Et ma présentation vous explique comment procéder. Il s'agit de demander aux personnes où elles vivent, quel est leur âge, etc. Ensuite, un peu d'arithmétique très simple et vous arrivez à des résultats qui vous montrent si les taux de cancer sont anormaux. Une étude très connue, elle a été faite au Pays de Galles et c'est une chaîne de télévision qui a interviewé les personnes et voici les données ventilées par âge et voici la centrale nucléaire qui entoure un rouge ici. Lanfastinyog, la localité en haut à droite, a connu une grande augmentation du nombre de cancers parce que cette localité est sous le vent de la centrale nucléaire. Alors vous pouvez mener ce genre d'études vous-même et pour ce qui est du Japon, je conseillerais aux personnes de le faire pour Fukushima parce qu'autrement, les populations ne vont jamais savoir de quoi il en retourne vraiment. Et j'ai d'ailleurs fait traduire le questionnaire en japonais. Il est donc disponible et j'espère que des groupes au Japon pourront utiliser ce questionnaire à toute fin utile. C'est une méthode que j'ai inventée en 1999. Et une fois que vous avez les résultats, vous pouvez directement aller aux médias qui sont toujours très intéressés et qui publieront vos résultats. Il vous faut un programme informatique et si quelqu'un souhaite procéder à cet exercice, vous pouvez me contacter ou contacter Green Audit, et nous vous aiderons dans la mesure du possible. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme de mathématiques, il vous faut simplement avoir du courage. Et souvenez-vous que nous sommes au centre de notre magnifique monde, et si nous voulons savoir ce qui se passe vraiment, il faut regarder par la fenêtre et voir ce qui s'y trame. Voici ma fille.
Le comité européen sur la radiation
a mis au point un modèle de risque qui montrera combien de personnes mourront du cancer selon les études, selon les nombres actuels. C'est une étude, un genre d'étude qui a été fait, un modèle de risque qui a été fait en Suède notamment, et il a été démontré que le modèle de risque de l'ICRP est un taux de 400 fois. Donc si le modèle du Comité international de protection radiologique dit qu'il y a un risque X, eh bien en fait ce sera X multiplié par 400. Et ceci est important à savoir. Si nous voulons savoir exactement ce qui va se passer, il faut faire des études épidémiologiques. Et pour ce qui est de Fukushima, précisément sur le cas de Fukushima, les livres sont en vente à l'extérieur. Merci.
Merci.